We Do Biz, premier sur les entrepreneurs.
Les entrepreneurs bougent, créent, partagent sur We Do Biz.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Thomas Benzazon et c'est avec plaisir que je vous retrouve cette semaine encore pour votre émission en direct Entrepreneur le Live. Alors que le web est désormais dans nos poches, qu'il fait également partie de nos vies, il sera à notre agenda la semaine prochaine avec l'événement Time to Market. Le web 3, c'est maintenant, disent les organisateurs. Alors, réalité ou fiction? Opportunité ou menace? Big data, ciblage comportemental, web sémantique, objets connectés ou encore SEO, qu'est-ce que ça veut dire et surtout qu'est-ce que ça veut dire pour nous les entrepreneurs. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir de retrouver deux experts et intervenants du T2M 2013. Sont ainsi présents sur le plateau Henri Kaufmann, publicitaire, auteur et éditeur avec les éditions Kawa, et Bertrand Jouvenot, consultant marketing et auteur de l'ouvrage Les Dessous du Web aux mêmes éditions. Alors messieurs, bonjour déjà.
Bonjour.
Bonjour.
Cette émission, on aurait aussi pu l'intituler « Le Web 3 pour les nuls ». Alors une question assez générale, nous les Français, où en est-on sur le web? Autrement dit, est-ce qu'on est nul ou pas?
C'est une drôle de question, mais non, on n'est pas nul. Par rapport aux Américains, on est de temps en temps un peu en retard, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que eux, ils ont un champ d'action de 300 millions d'habitants, sans compter tout le reste du monde qui les suit. Ben nous, on est dans le précaré de 60 millions, donc c'est pas comparable. Quand on lance une entreprise, on a un marché réduit par rapport aux Américains. Donc, je pense qu'on n'est pas nul du tout, du tout. Et d'ailleurs, moi, j'ai enlevé ce mot de mon vocabulaire.
Je confirme que les Français sont pas du tout nuls. Moi, au contraire, je les trouve très innovants. Il y a une dynamique au niveau des startups aujourd'hui en France. On voit de jeunes entrepreneurs, de plus en plus jeunes, qui arrivent avec des nouveaux concepts, parfois qui n'existent même pas aux États-Unis. Certes, ils ne bénéficient pas du même marché domestique qui leur permet, comme les Américains, de prendre le lead du marché. Ils bénéficient pas non plus de la même structure de financement. Le capital risque et l'investissement et le financement n'est pas du tout le même en France. Donc je pense que toute proportion gardée, les Français sont pas nuls du tout.
Donc ils sont créatifs, mais alors justement, vous dites on n'a pas les mêmes ressources de financement. Quand on a des Dailymotion qui, a priori, ont besoin d'une entreprise, d'un groupe américain pour grandir encore, est-ce qu'au final, on est juste capable de créer, mais pas de développer sur le long terme?
Ils n'ont pas eu besoin d'un groupe américain, ils ont eu besoin de financement pour développer leur développement, précisément.
Et pour ça, il fallait effectivement un partenariat stratégique et Yahoo
oui.
pouvait
non, mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont filiales d'Orange, et que Orange aurait pu peut-être mettre la main cracher au bassinet pour que ce financement vienne d'Orange d'une manière spontanée et non pas après cette petite guéguerre.
À 30 millions quelques semaines après, effectivement. Oui. Alors du coup, bon, avant d'entrer dans les enjeux du Web 3, pour nos entreprises évidemment, est-ce qu'on est en mesure déjà d'en donner la définition? Parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a à peu près autant de définitions qu'il y a d'experts. Est-ce qu'on va réussir à vous mettre d'accord? Henri Kaufmann, votre définition du Web 3?
Moi, j'ai pas de définition du Web 3. J'ai l'impression que le Web, c'est devenu quelque chose de continu. On avait le web 1.0, puis 2.0. Bon, ça, c'est un peu la terminologie des logiciels qui ont des mises à jour permanentes. Bon, en fait, le web, c'est une mise à jour permanente. Tous les jours, toutes les semaines, il y a des nouveautés, des produits, des systèmes, des machines, etc. Bon, on est peut-être au 3, mais sans le savoir, déjà au 4 ou au 5, j'en sais rien. Je me pose pas la question.
Moi, je pense qu'il faut quand même se poser la question, parce que c'est vrai que le web évolue en permanence, mais il y a quand même des moments clés, des dates clés où le média lui-même mûrit. Si on regarde bien son histoire, il a été d'abord un réseau militaire. Ensuite, il a été un réseau technique d'ordinateurs.
Vous pouvez nous mettre les numéros en face à chaque fois?
Des années où il est devenu, je dirais, un réseau technique d'ordinateurs en 1996.
Donc là, c'est le web 0.0.
Ouais, voilà. Ensuite, il est devenu un média, et on a commencé à en parler comme d'un média de plus en plus. Allez, en 99-2000. Ensuite, il s'est vraiment organisé en industrie, je dirais 2005. Et maintenant, on comprend que c'est une communauté et de plus en plus un écosystème que Kotler aurait appelé marketplace, c'est-à-dire quelque chose qui coexiste, market space, pardon, un espace autour du marché physique, qui est devenu très important, qui est devenu une caisse de résonance à ce qui se passe dans la réalité et duquel se sont emparés les consommateurs. Donc je pense là il y a quand même quelque chose de très important puisque on rentre dans cette phase de maturation du web, grosso modo le web commercial a une quinzaine d'années, et je pense que là on va avoir une prise de conscience de la part des acteurs traditionnels, de la part des pure players, de la part des consommateurs de l'importance du web qu'il a au niveau sociétal pour nous tous. On ne sait pas encore ce que ça va devenir, mais le terme de conscience me semble intéressant, la prise de conscience collective de ce qu'on est en train de faire ensemble avec le web.
Alors du coup, Bertrand Jouvenot, si on devait donner la définition du web, moi j'aimerais bien une définition quand même.
J'ai un peu de mal, moi, à donner une définition, mais je dirais que c'est une étape de maturation du web qui va s'articuler de plus en plus autour de problèmes de société, autour du traitement des données, données sur les consommateurs. Et là, on introduit effectivement le sujet du big data, de la relation client, des nouvelles formes de vente.
Le web, finalement, c'est un peu comme l'air qu'on respire ou comme l'eau qu'on a au robinet. Donc, c'est devenu maintenant, on l'a dans la poche, comme le disait Bertrand, on l'a sur sa table, on l'a dans son lit, on l'a aux toilettes. Bon, donc, je me souviens encore, dans les années 90, j'étais aux États-Unis dans un salon de marketing, et là, je rentre dans un stand qui était assez masqué, et derrière des rideaux, un peu comme un peep show, il y avait des écrans, et c'était la première fois, donc, que je voyais des applications Internet. Mais même le mot n'existait pas. Et c'était vraiment masqué, on regardait ça comme si c'était porno, mais bon. Donc, depuis, on a fait du chemin.
Donc,
quand
tu
même.
Y as été, alors?
Oui.
Il est entré. Alors, pour les novices, si on parle du Web3, est-ce qu'il y a des mots à connaître pour briller, par exemple, en soirée entrepreneur?
Ah, tu veux parler des buzzwords?
Si on veut, mais c'est quoi? Parce qu'on entend plein de mots quand même. Bon, oui.
D'abord, le premier mot à connaître, c'est buzzword.
D'accord.
Qui veut dire mot à connaître. Mais c'est plus sympa. Alors, les mots à connaître, c'est...
Les buzzwords.
Oui. Big data, qui n'est pas du tout des data qui sont grosses, mais c'est un autre concept sur lequel on reviendra. Il y a le SEO.
Est-ce qu'on peut expliquer quand même à chaque fois quand même le mot en tant que tel? Le big data, c'est quoi aujourd'hui?
Ben, le big data, c'est la capacité qu'on a maintenant de rassembler des données qui sont, disons, comme les traces laissées par les clients. Au-delà du chiffre d'affaires, au-delà de la fréquence des achats, etc. Maintenant, on sait combien de temps ils sont restés sur un écran. On sait quels produits ils ont achetés. On sait où ils sont. Et donc, l'agrégation de toutes ces données, plus des données qu'on appelle exogènes, c'est-à-dire la météo, c'est-à-dire le nombre de consultations chez les médecins, etc., etc. Tout ça fait que maintenant, on comprend des phénomènes qu'auparavant, on ne comprenait pas.
En faisant le lien entre toutes les données qu'on peut avoir.
Non pas en faisant le lien, en laissant les ordinateurs faire le lien. C'est-à-dire que on met tout ça dans une grosse moulinette et on sort des corrélations complètement improbables. Et d'un seul coup, on comprend un phénomène.
Voilà. Donc le premier buzzword à connaître pour nos auditeurs, c'est Big Data. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important?
Moi, je pense qu'il y a un autre buzzword qui est important, c'est le buzzword de Web Collars. On connaît tous les Blue Collars, donc les gens qui portaient des cols bleus, qui travaillaient dans les usines, c'est la révolution industrielle. Sont arrivés les White Collars, ce sont les cadres qui portaient des chemises blanches avec une cravate. Et maintenant, on a une nouvelle génération et on a même un conflit générationnel. On a les Web Collars. Alors, quelle couleur est leur col? Ben justement, ils ont pas de col, ils sont en t-shirt, c'est la nouvelle économie, c'est la Californie. Ils sont pas forcément dans les bureaux, ils travaillent de chez eux, c'est le télétravail. C'est une
nos invités sont en train de comparer leurs t-shirts pendant l'émission, faut qu'on comprenne pourquoi.
Et Henri Kaufmann effectivement est un Web Collars un petit peu comme moi et comme nous tous autour de la table. Donc le terme de Web Collars, je pense, désigne une nouvelle réalité, des nouvelles façons de travailler en fait incarnées par une nouvelle génération aujourd'hui qui vient dans les entreprises avec des idées nouvelles, avec comme ça une addiction pour le web et une envie de faire évoluer les modes de fonctionnement.
Ah, il y a un mot précisément qui qualifie les Web Collars, c'est le mot Attawad. Attawad, en fait, c'est un acronyme qui veut dire anytime.
Je parlais d'un autre monde en parlant du Web 3, c'est aussi une autre langue.
Oui. Non, mais là, c'est de l'anglais tout simple. C'est anytime, anywhere, any device. C'est-à-dire que on est joignable à n'importe quel moment, sur n'importe où et sur n'importe quel device, c'est-à-dire téléphone, ordinateur, etc., etc.
D'autres mots, parce que on entend SEO, on entend...
SEO, attention. Comment ça s'écrit? C'est pas SEO.
Et non, parce qu'on parle anglais.
Donc c'est SEO.
Search Engine Optimization.
Voilà.
Bon, alors tout ça, c'est des concepts à maîtriser pour l'entrepreneur ou c'est simplement des mots à connaître?
Non, c'est des concepts à maîtriser. Ce sont aujourd'hui de véritables métiers avec des experts qui tous reconnaissent avoir énormément de mal à rester à jour dans leurs connaissances parce qu'ils sont tous de plus en plus tributaires pour faire leur métier, SEO, SEM, des moteurs de recherche, notamment du grand moteur Google, qui en permanence évolue et oblige tous les gens qui font du SEO et SEM à revoir leur copie, à revoir leur technique, à revoir leur méthode.
Je vous demanderai à l'un et à l'autre pendant cette émission, quand vous utilisez des acronymes, d'expliquer ce que c'est. Au moins une fois.
D'accord. Alors, SEO, Search Engine Optimization, c'est un ensemble d'aménagements techniques que l'on réalise sur un site internet de façon à ce qu'il soit plus trouvé, mieux trouvé,
avec le
dans les moteurs de recherche.
Le mot-clé étant référencement.
Et voilà, parce que les moteurs de recherche référencent les sites à partir de mots-clés qui sont utilisés ensuite par les utilisateurs. Le SEM, Search Engine Marketing, c'est un petit peu le pendant. C'est l'achat de mots-clés, c'est la possibilité de voir son site apparaître dans les premiers résultats, moyennant finance à Google, avec un système de vente aux enchères proposé par Google, qui fait que tout le monde aujourd'hui se bat pour acheter les mêmes mots-clés au même moment, fête des mères, etc., pour être vu, cliquer, etc.
Et sur ce métier, en fait, on arrive à une chasse un peu, comment dire, on joue au chat et à la souris. C'est-à-dire que comme Google et les autres moteurs de recherche changent en permanence leur algorithme pour l'améliorer ou pour gagner plus d'argent, eh bien les développeurs spécialistes du SEO doivent se mettre à jour, comme le disait Bertrand, en permanence pour trouver la petite faille qui va faire que leur site sera mieux référencé que celui du copain ou du concurrent.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a des entreprises, y compris très petites, qui sont très bonnes en SEO, donc qui ont fait les bons aménagements techniques, qui n'ont pas besoin d'acheter des mots-clés, et qui du coup arrive à bien remonter dans les classements et à être très visité. Et à l'inverse, on a des grands groupes qui ont une culture française, un peu plus conservatrice, qui achètent parfois jusqu'à 100 000, 400 000 mots-clés par an aux enchères, dépensent un argent absolument incroyable, sans se donner le mal d'avoir fait la première étape, qui est l'optimisation un peu maligne, etc. Et qui résonne avec cette culture des médias à l'ancienne, un peu comme avec la télé. J'ai beaucoup d'argent, c'est la force du plus fort, celui qui a le plus de budget l'emporte, et j'achète du mot-clé comme on achetait autrefois là, du GRP.
C'est pas un peu le cas quand même? Plus on est visible, plus on a d'argent, plus a priori on...
Pas forcément, il faut être... plus on est intelligent, plus on est visible.
Donc là, prime à l'intelligence. Alors maintenant qu'on est presque des experts du web grâce à vous deux, est-ce qu'on peut aller plus loin quand même sur les enjeux de ce nouveau monde dans lequel finalement, qu'on le veuille ou non, nous serons tous plongés ?
Alors moi je crois que l'enjeu fondamental qu'il y a derrière le web 3.0, c'est une mutation du commerce lui-même. Historiquement, on a deux formes de vente, deux formes de commerce. La vente assise, la vente debout. La vente debout, c'est quoi? C'est je suis vendeur, je suis dans un magasin, quelqu'un rentre dans mon magasin, je le connais de vue, je l'ai déjà vu la semaine dernière, je sais qu'il va acheter une chemise rose parce qu'il aime bien les chemises roses. J'ai pas de données sur lui, je sais pas son nom, je sais même pas ses mensurations, je connais pas le nom de son chien ni de sa femme. Puis après, il y a un autre métier historique qui s'appelle la vente à distance, ce que faisaient les trois Suisses, Redoute, etc. Aux États-Unis, ils sont culturellement très forts dans ce secteur, en Allemagne aussi. En France, on n'est pas si fort. Et là, c'est de la vente assise. On n'a pas de magasin, on a des gens qui sont assis derrière des ordinateurs, qui regardent des fichiers, ils connaissent pas le visage des gens. S'ils les croisent dans la rue, ils savent pas leur dire bonjour. Mais ils savent leur nom, leur prénom, leur deuxième nom, leur mensuration, s'ils ont un problème de santé, s'ils ont acheté des bas de contention, etc.
Alors, où est l'enjeu?
C'est que maintenant, toute personne qui veut faire du commerce se doit, parce que le commerçant lui impose, d'être capable de servir le consommateur à travers tous les canaux, de lui vendre sur Internet. Et Internet, c'est une extrapolation de la vente à distance. Donc elle doit apprendre ce métier finalement, qui est la maîtrise des données, la maîtrise des informations pour comprendre le consommateur, l'utilisation de ces informations pour créer des scénarios commerciaux, pour lui proposer des choses en fonction de ses intérêts, en fonction de ses comportements, etc., tout en étant capable de faire un autre métier. Et là, c'est un vrai enjeu, qui est le commerce plus traditionnel. Pourquoi c'est un enjeu? Parce qu'en France, historiquement, nous ne sommes pas du tout multicanal. Au Japon, ils le sont. Uniqlo, par exemple, est un très bon acteur du multicanal. Aux États-Unis, vous avez énormément de sociétés qu'on connaît moins, mais J.Crew, Lenzend, Brylane, etc., arrivent très bien à faire du multicanal. En France, pas du tout. On a les champions du magasin, on a les champions de la vente à distance, à part peut-être Yves Rocher, qui a réussi à être bon sur les deux.
Ça commence un peu.
On met du temps quand même à apprendre ce métier. Et c'est vrai qu'Internet aide les retailers, c'est-à-dire les distributions physiques magasins, à apprendre à devenir des VADistes et faire de la vente à distance nouvelle génération, c'est-à-dire de l'Internet.
Je voudrais rebondir sur la comparaison de Bertrand entre les vendeurs assis et les vendeurs debout. Eh bien, ce qui se passe en ce moment, c'est dans l'armée. Il y a les soldats debout et les soldats assis. Et les soldats assis, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la guerre avec des drones. Et donc, mais c'est la même chose. Et en fait, ils se posent des problèmes psychologiques, parce qu'ils tuent des gens à distance, sans les voir, et ils les tuent avec un rendement de 100% quasiment. Ce matin, je voyais que le numéro 2 de je ne sais plus quelle organisation terroriste avait été descendu. Donc,
Alors, du coup, quel impact pour nos entreprises?
Bah, quel impact, c'est que
on va avoir des vendeurs à distance comme ça sur Internet, oui, qui finalement
c'est plus complexe que ça. C'est que prenons les magasins et la vente sur Internet. On a cru à un moment donné que la vente, que le e-commerce allait tuer le commerce. Et en fait, il y a un rebond extraordinaire en ce moment qui s'appelle, alors c'est aussi un buzzword, le web to store. C'est-à-dire que les magasins ont compris tout l'intérêt qu'il y avait
à être sur le web,
à exploiter, non pas être sur le web, à exploiter le web pour faire du trafic, pour relancer leurs clients. Maintenant, on met des systèmes Wi-Fi à l'intérieur des magasins et les gens sont géolocalisés à un mètre dans le rayon, dans chaque rayon. C'est ce qui fait que si toi tu aimes les rasoirs Gillette, le jour où tu es dans un magasin, que tu passes devant le rayon, à un mètre du rayon, on te dit, ah, il y a une promo. D'ailleurs, t'en auras bien besoin, Thomas, là. Tu t'es parasé depuis combien de temps?
On comparait nos barbes encore après les t-shirts. Donc, il y a des opportunités. Du coup, c'est quoi les business, les métiers de demain?
Ben, les métiers de demain. Enfin, dans le big data, il y a beaucoup de métiers. Il y a une société que je voudrais citer qui est formidable, qui est française, de même que Dailymotion, bien qu'elle ait un nom américain. L'autre société, c'est Criteo. Criteo, elle est spécialisée dans le marketing de relance des clients. Bon, elle est, c'est une des meilleures sociétés au monde dans ce domaine. Donc, pour revenir à ta question du début, on n'est pas nul, loin de là.
Et alors du coup, oui, non, mais les métiers de demain,
En termes de métiers, je pense qu'il y a des métiers qui existent déjà et qui sont en train d'évoluer avec le web. Il y a le métier d'hébergement des données. C'est un vrai métier en soi parce qu'il faut de la sécurité, il faut de la confidentialité, etc.
Ça, c'est un métier. Et l'analyse.
Alors ensuite, effectivement, il y a peut-être un autre métier qui est le métier de faire parler les données, analyser les données. C'est pas le tout d'avoir des données, mais comment on les croise, quel traitement on en fait pour en tirer quelles conclusions. Et ensuite, il y a un autre métier, mais qui est plus à l'intérieur des entreprises qui vont consommer ces services, qui est le métier de la décision. Et là, c'est l'intelligence marketing. Je sais désormais des choses sur mes clients. Je sais que tous mes clients qui ont acheté le produit A, ils ont également acheté le produit B. Qu'est-ce que j'en déduis? Est-ce que je vais déduire qu'ils vont acheter le produit C ou le produit F? Donc là, il y a toute l'invention, finalement, de mécanique commerciale, de scénario marketing pour personnaliser, finalement, les offres qui seront faites aux clients.
On peut même aller plus loin. Par exemple, on peut savoir quel est l'impact d'une campagne de pub, chez mon concurrent. Simplement en voyant le trafic des gens dans ce magasin à partir des données de géolocalisation des smartphones. C'est absolument incroyable, ça.
Il va peut-être y avoir aussi un nouveau métier qui va naître, qu'on pourrait appeler la prédictique. C'est qu'aujourd'hui, on a plein de données sur les consommateurs. Donc, on sait regarder dans le rétroviseur. Je sais que mes clients, il y a 3 ans, ils ont acheté ça, qu'ils habitent à tel endroit, qu'ils ont déménagé. Ce qui m'apporte, moi, en tant que marketeur, c'est de savoir quand est-ce qu'ils vont passer devant mon magasin. J'ai besoin de le savoir 10 minutes avant pour, à ce moment-là, lui envoyer une publicité sur son mobile dans laquelle je rappelle qu'il était venu dans ce magasin acheter telle chose et qu'il y a tel article complémentaire qui est là. Et donc là, on passe du passé au futur et on utilise les données du passé, un petit peu comme en bourse, pour essayer d'anticiper le futur. Et là encore, il y a beaucoup de choses à inventer et du côté des annonceurs et du côté des prestataires.
Mais à ce propos, en fait, non seulement on peut prédire le comportement du client, mais autour de chaque magasin, on peut construire une frontière virtuelle. Mettons à 1000 mètres ou 2000 mètres du magasin. Et dès qu'un client de ce magasin pénètre dans ce cercle virtuel, le magasin est prévenu et peut lancer une promo ou une information adéquate.
Alors vous parlez d'outils prédictifs. Hier au SAP Startup Forum, il y avait une entreprise, une startup qui se lançait dans la prédiction des messages postés sur les réseaux sociaux pour les marques. Et du coup, la machine était capable, et mieux que les humains, de définir ce qu'il fallait poster, à quel moment.
Oui, bien sûr.
Alors du coup, c'est déjà la mort du métier de community manager?
C'est pas forcément la mort, mais prenons Twitter. Eh bien, c'est très simple. Il y a des machines qui ont analysé quelle était l'audience heure par heure, minute par minute de la lecture des tweets. Et maintenant, on sait individuellement que Monsieur X aura intérêt à tweeter à 8h30 du matin parce que son audience est levée et regarde son ordinateur, et que Madame Y c'est plutôt à 2h ou 3h de l'après-midi.
Et eux le savent.
On peut, bien sûr, il suffit d'aller sur un site et j'ai plus le nom en tête, mais on te dit, toi, tu as intérêt à tweeter ou à faire des commentaires Facebook exactement à telle et telle heure.
Ça, c'est un des grands, finalement, un des grands sujets du Web 3.0, c'est cette opposition, cet arbitrage, ce combat entre les machines d'un côté et les hommes de l'autre. Vous demandiez, est-ce que le community manager est mort ? Deux scénarios, soit celui que Henri vient de décrire, effectivement, on laisse les machines faire, on va peut-être perdre un petit peu de spontanéité.
Ah non, il faut quand même écrire le message.
On va être dans l'efficience, on va manquer peut-être un peu de chaleur, un peu de spontanéité. Soit on laisse les humains faire, et là on revient au commerce, on revient à certains fondamentaux, et on réintroduit un peu d'émotion, on réintroduit un peu de chaleur dans un monde qui est de plus en plus dur, en tout cas les consommateurs s'en plaignent, de plus en plus individualistes, où finalement les machines sont de plus en plus prégnantes.
Mais je reviens au big data. Et tout à l'heure, je parlais de données exogènes. Il y a des données qu'on n'a jamais utilisées, qui sont les données de microclimat. En fait, le climat sur un village ou sur une surface très, très petite. Maintenant, on l'a. Et on peut, en analysant ces données, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va neiger, est-ce qu'il va faire très, très chaud, pousser des messages qui correspondent exactement au microclimat, et donc les clients seront, enfin s'il fait très chaud, si on leur dit voilà, il y a une promo sur les glaces, eh bien ça leur parle plus que s'il fait froid comme aujourd'hui ou s'il pleut.
Bon, oui. Donc en tout cas, pardonnez-moi, je vous coupe pour qu'on puisse avancer, mais il y a effectivement des opportunités sur le web pour nos entreprises. Effectivement, il faut maîtriser un certain nombre d'outils notamment et de concepts, mais il y a pas des limites au Web 3 quand même.
Moi,
qu'est-ce que vous percevez aujourd'hui ?
J'aperçois quand même plusieurs limites aujourd'hui. La première, qui se manifeste pas encore, mais qui pourrait arriver, c'est la saturation des consommateurs. Il n'est pas exclu que les consommateurs qui, un jour, en ont eu marre des publicités télévision, qui étaient très belles, qui étaient très intéressantes et très bien faites, il n'est pas exclu qu'un jour, ils en aient un petit peu marre de ces hyper-sollicitations commerciales, toutes pertinentes soient-elles. Donc ça, c'est la première limite. La deuxième limite, je la vois plus à l'intérieur même des entreprises. On a des données, on a un matériau pour imaginer des nouvelles stratégies, pour imaginer des nouvelles techniques commerciales, des nouvelles offres. Tout le monde n'est pas innovant, toutes les entreprises ne sont pas innovantes, tout le monde ne sait pas prendre des décisions. Dans un monde où il faut prendre des décisions de plus en plus vite, dans un environnement de plus en plus flou. Donc ça, je crois que là, il y a une deuxième limite qui est interne, finalement, aux entreprises. Et puis, il y a une troisième limite qui est liée aussi, peut-être plus, à la culture. Et là, on revient aux entreprises françaises. C'est la culture de l'innovation. N'oublions pas que les Américains sont traditionnellement très innovants dans l'âme et ont une ouverture à l'innovation, ce qui est moins vrai. Ce qui est moins vrai en Europe, ce qui est moins vrai en France. On adore ne pas innover, on adore ne pas prendre de décision, on adore se faire peur en France, parlementer plutôt qu'avancer.
Je relance Henri Kaufmann qui prend des photos en même temps qu'on parle. Et alors du coup, est-ce que vous voyez les mêmes limites que Bertrand Jouvenot ?
Ben, moi, je suis d'accord sur un point. C'est que, de toute façon, on constate toujours des effets de balancier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le balancier est allé trop loin dans un sens... le balancier va revenir. Bon, on commence déjà à entendre des bruits. Facebook, on en a marre. Il y a peut-être des choses différentes à faire avec d'autres systèmes. Facebook croit, de toute façon, parce que il y a plein de pays qui ne sont pas encore équipés. Bon. Mais il y aura peut-être aussi un mouvement de balancier. Cela dit, au niveau d'Internet, je pense que là, on peut dire, passer les bornes, il n'y a plus de limite. Donc, je vois pas de limite si ce n'est des modifications de comportement ou plutôt la naissance ou la mort de certaines entreprises. On a vu Yahoo qui était au firmament il y a quelques années, qui maintenant est un peu pas à la ramasse, mais enfin se cherche une nouvelle vie. Bon, juste cru. Avant, on disait big never fail. Hein, les gros jamais ils feront faillite. Eh ben non, maintenant on voit des faillites de gros et le crack banquier dans les banques nous a montré que même les plus grosses pouvaient faire faillite.
Bertrand Jouvenot, je vous voyais.
Oui, un complément quand même. Je crois que l'un des enjeux, et là c'est l'une des limites, il faudrait arriver à réhumaniser un petit peu le commerce. On a dit l'Internet. Internet me rapproche de mon lointain, mais m'éloigne de mon prochain. En clair, je suis dans le métro, je peux effectivement tweeter avec un ami australien et discuter avec une copine japonaise sur Facebook, c'est formidable, mais je parle pas avec mon voisin.
De toute façon, dans le métro, on se parle jamais. si tout le monde a facilement accès aux milliards d'informations dont vous parliez tout à l'heure avec le big data, est-ce que finalement toutes les entreprises reviendront pas à un pied d'égalité ? Est-ce que ça va pas finalement s'annuler cet avantage ?
L'avantage de
bah d'avoir plus d'informations que les autres, d'être capable
non,
de...
parce que tout le monde sera au même niveau. Donc, c'est comme une course de 100 mètres où il y a des handicaps, enfin plutôt à cause du rayon de la piste. Bon, mais à un moment donné, ils sont tous sur la même ligne, puis c'est le plus fort qui gagne.
Donc, il faut juste pas être en retard et oui. Si possible, être le premier.
Il faut surfer sur la vague et pas être dans la vague déroulante.
On évoque, pardonnez-moi, le Web3 donc comme une opportunité extraordinaire. Il y a aussi des menaces pour nos entreprises en termes, je sais pas, de hacking.
Moi, je crois qu'il y a une menace peut-être plus globale, qui dépasse le cadre des entreprises. C'est ce que le philosophe Paul Virilio appelait l'accident technologique. L'accident technologique, c'est quoi ?
Demain, il n'y a plus rien.
Ben, c'est une société où on est tous tributaires de plus en plus des nouvelles technologies. On a nos comptes en banque, nos URSSAF, nos impôts, enfin bref, toute notre vie et toutes nos données en iCloud ou je ne sais quoi. Et puis, paf, accident technologique, le réseau tombe pour une raison bonne ou mauvaise. Qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe quoi justement à ce moment-là ? Il y a des solutions déjà envisagées ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il existe des solutions, mais en tout cas, là, on est vraiment dans une situation où si ça se produisait un petit peu comme à New York, que tout d'un coup l'électricité a tombé, on pourrait apercevoir des nouveaux comportements, les gens qui se reparleraient, des nouvelles solidarités qui se développeraient. Mais on est en train de devenir de plus en plus cyberdépendants sans rendre compte, à mon avis. Là, il y a peut-être des alertes.
Donc la vraie menace aujourd'hui de l'étendue du développement du web, c'est ça, c'est un accident technologique du jour au lendemain.
Mais je rebondis sur ce que tu dis à propos de New York. Quand il y a eu les inondations absolument terribles, tout s'est arrêté à New York et, oh, surprise, il n'y avait plus d'électricité, plus rien à bouffer, etc. Les gens se sont, cotisés. Et il y a eu des gens qui amenaient à manger à d'autres gens. Et la solidarité humaine, finalement, de base, on l'a retrouvée.
Donc finalement, pas une grande menace, on rebondira toujours.
Oui, mais il y a aussi une autre menace, à mon avis, culturelle. Aujourd'hui, on voit en Occident un acteur prégnant sur le web qui est Google, qui est américain, qui n'en a rien à faire des valeurs françaises et de nos institutions. Et c'est aujourd'hui en train de devenir un moyen d'accès à la connaissance, au savoir de plus en plus important.
Alors justement, parce que vous disiez que le monde de demain, c'est celui de la donnée. Alors du coup, si la meilleure arme, justement, c'est cette détention de l'information, comment est-ce qu'on peut entrer dans cette guerre, sachant qu'aujourd'hui, pour le coup, justement, l'information, elle est chez les Facebook, chez les Google.
Mais en étant plus malin, tout simplement.
Mais aujourd'hui, il y a quand même des mastodontes. Comment on arrive à rattraper ce retard ?
Je crois que les mastodontes, c'est David et Goliath. Bon, bah, à un moment donné, il y a un David qui sera plus fort que Goliath.
Moi, je crois
Bertrand Jouneau n'y croit pas, oui,
non,
ça.
Je crois que déjà, il y a une première réponse possible qui est celle du citoyen qui a son libre arbitre, qui peut choisir ou non de laisser ses données disponibles ou pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la deuxième, c'est l'État. On sait qu'en Europe, les États sont plus interventionnistes qu'aux États-Unis. Il y a peut-être des options de réglementation, de régulation qui seront mises en place. C'est un peu l'actualité, ça d'ailleurs. Et puis, bon, troisièmement, effectivement, n'oublions pas, il y a l'innovation française, il y a les effets de balancier, il y a des nouveaux acteurs, on le voit sans arrêt sur Internet, qui peuvent arriver avec des nouvelles options plus adaptées en tirant les leçons du passé.
Juste un mot, Henri Kaufmann, je discutais avec l'un de vos auteurs sur l'absolu marketing.
Oui.
Et donc, il y avait toute cette question sur le neuromarketing et il m'expliquait que ça faisait débat.
Oui. Bah, ça fait débat pour une raison toute simple. C'est que il peut y avoir des opérations où on envoie des messages à des gens qui sont sur un IRM, enfin, dans un scanner, et on regarde ce qui se passe dans leur cerveau. Et ça, c'est interdit en France. Donc, on fait des expériences en Belgique, en Angleterre, etc. Donc, mais ce n'est pas le bien contre le mal. Donc, il n'y a pas un bouton dans la tête des clients sur lequel on va appuyer pour dire « achète ». Non, simplement, on comprend mieux les mécanismes. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous allez au restaurant, il y a un menu. Eh bien, si la côte de veau est écrite 12 euros, eh bien, on en vend plus que si c'est marqué 12 euros. Autrement dit, s'il y a le chiffre 12, on en vend plus que si on marque 12 euros.
D'accord.
Alors, bon, bah ça, eh bien, c'est, on le voit par les neurosciences. Et si on est au courant, eh bien, on change ses menus.
Donc, des applications très pratiques.
Très pragmatiques, oui.
Messieurs, je vous propose, parce que le temps défile très vite, de passer aux questions flash. Un mot sur le revival de Yahoo avec Tumblr.
Ah bah bravo. C'est toujours intéressant d'avoir le géant Google d'un côté et Yahoo qui était un géant aussi à son époque qui revient dans la scène et dans la course. Ben, bravo, moi je dis... qui continue.
Sans transition, un mot sur le CSA qui accepte plus de compétences sur le net mais ne se sent pas enclin à sanctionner.
Oui, mais je crois que c'est intéressant. Là, c'est une vraie question que se pose l'État. Il faut effectivement que l'État réfléchisse à la posture qu'il prend. Il a besoin de temps parce que c'est tellement nouveau, il y a tellement de flou juridique, il y a tellement de questions qui se posent. C'est tellement transnational qu'il n'arrive pas, à mon avis, à statuer aujourd'hui. Mais c'est des dossiers ouverts et qu'il ne faut pas refermer.
Et vous, votre opinion dessus ?
Ben, Adopi a été lancé un peu contre la communauté des internautes. Ben, il y a eu une levée de bouclier tout à fait étonnante. Bon, peut-être qu'il y avait des ingrédients qui étaient mal digérés. Peut-être que le CSA saura un peu plus mettre à la fois les auteurs et les ayants droit dans sa poche, de même que les internautes. Je l'espère, en tout cas.
Un mot du publicitaire que vous êtes sur l'ouvrage de Séguéla, « Merde à la déprime », c'est le titre.
Bah, c'est là le chic pour trouver des mots extraordinaires. Hein. Bon, après la force tranquille, après si vous n'avez pas une Rolex à 50 ans, vous avez, etc., etc. Bon, bah, je crois qu'il a raison. Il a raison. Les freins souvent sont dans la tête des gens, sont pas dans la loi ou sont pas dans l'économie.
Transition parfaite pour la question suivante. Est-ce que si à 50 ans on n'a pas un iPad, on a raté sa vie? D'entrepreneur ?
Non, s'il y a 18 ans, on n'a pas d'iPad.
Ça dépend à quel âge on l'a acheté.
un mot et une petite dédicace à Franck Prime, l'organisateur du T2M 2013. Pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui parler de son salon ? C'est vous qui l'a envoyé ?
Non, on l'a kidnappé parce qu'on voulait en fait attirer la lumière à nous et on pensait que c'était beaucoup plus intéressant que soit nous qui allons intervenir sur le salon.
On parle que de lui, donc pour une fois qu'on parle de nous.
Un dernier mot, ce sera ma dernière question. Henri Kaufmann, où peut-on trouver les photos que vous avez réalisées pendant cette interview ?
Ah, bah, j'avais les tweetés, les facebookés, les blogués.
Et donc, on pourra comparer les chemises, les barbes et voir que tout était en direct et bien réel.
Ah oui.
Merci à vous deux, Bertrand Jouvenot, je le rappelle, expert en marketing, auteur également aux éditions Kawa et le dirigeant des éditions Kawa était également avec nous, Henri Kaufmann.
Directeur de collection.
Directeur, effectivement, de collection. On se retrouve quant à nous, chers auditeurs, la semaine prochaine. Et on vous le rappelle, la semaine prochaine, c'est aussi le T2M 2013, les 12 et 13 juin à Paris. À très bientôt à tous.
Merci Thomas.